Vous écoutez
RMC.
Il est 8h01, bon réveil à tous, journée olympique, journée historique sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal en direct avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. On aperçoit le Bel Aim ce matin au large de Marseille avec à son bord la flamme olympique qui, oui, elle arrive en France ce matin, journée spéciale sur RMC. 150 000 personnes attendues aujourd'hui à Marseille.
Immense défi sécuritaire, 6 000 forces de l'ordre mobilisées sur terre, en mer et dans les airs. À 8h40, nous serons en direct sur place avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Emmanuel Macron sera à Marseille aujourd'hui. En attendant, le président revient sur la polémique Gérard Depardieu. Il se défend de toute complaisance. Et puis les petites mines ce matin des supporters du Paris Saint-Germain, éliminés de la Ligue des Champions hier soir en demi-finale contre Dortmund, avec des questions sur l'après Mbappé.
Le Bel Aim s'approche de Marseille.
Oui, le fameux trois mâts qui arrive avec la flamme olympique est en ce moment dans le parc national des Calanques. On peut le voir, ça y est, depuis la côte, ça va être comme ça toute la journée. Le Bel Aim va tourner en rade de Marseille, escorté par un millier de bateaux, avant de faire son entrée très attendue dans le Vieux-Port à 19h, devant 150 000 personnes. C'est tout Marseille, nous dit Julien Richard pour RMC, qui veut voir ça.
Dernier réglage dans le vent pour les South Winners.
Quel cadre magnifique que le Vieux-Port pour un tel événement. Quoi.
Habituellement, ils enflamment le Vélodrome. Mais ce soir, le groupe de supporters de l'OM déploiera un immense tifo pour l'entrée du Bel Aim et la flamme olympique dans le Vieux-Port.
Il va incarner Marseille, comme il va incarner la philosophie des Jeux Olympiques et aussi la philosophie de la ville. Accueillir le plus de personnes possible et le vivre ensemble. Quoi.
La piste flottante sur laquelle Florent Manaudou descendra du Bel Aim avec la flamme est déjà en place. Et Françoise, vendeuse ambulante, se prend au jeu.
J'ai déjà les frissons parce que j'ai compris ce qu'il allait vraiment se passer. Quoi. Je pense que les gens ne s'attendent pas à un événement d'une telle ampleur, d'une telle féerie en fait.
La terrasse de Momo avec vue sur Notre-Dame de la Garde ne désemplit pas.
On attend le monde impatiemment et on est fiers de l'avoir. C'est une fierté d'être Marseillais, Français, d'avoir la flamme aussi.
Et même si des deux Olympiques, la flamme et l'OM.
Je préfère l'OM quand même.
Il a sa petite préférence, la semaine olympique s'annonce enflammée pour les Marseillais.
Elle est enflammée aussi sur RMC avec les grandes gueules et le super Moscato Show en direct de Marseille aujourd'hui. Le rappeur Soprano sera d'ailleurs l'invité de Vincent Moscato cet après-midi avant son concert géant ce soir lors de la cérémonie. Le tout, on le disait et on va en reparler, sous très haute sécurité, 5900 policiers et gendarmes déployés. C'est le grand défi sécuritaire qui commence aujourd'hui. Et sous l'œil aussi d'Emmanuel Macron. Le président va passer la journée à Marseille. Hélène Terzian du service politique à RMC en direct ce matin sur place à Marseille. Emmanuel Macron, pas au premier plan, le président va rester en retrait.
Oui, Quentin, le président, il sera là en simple spectateur. Rien de plus normal pour l'Élysée qui insiste. Il assistera à l'arrivée de la flamme en tant que chef d'État qui accueille les Jeux. On le comprend, hors de question d'en faire une séquence politique. Lui qui tient à garder un rôle de superviseur dans ces JO, explique son entourage. Impensable, en tout cas pour lui, de rater ce moment dans cette ville qu'il affectionne particulièrement. 14 fois qu'il vient en 7 ans. Marseille, il en a fait son laboratoire. Il a débloqué plusieurs milliards d'euros dans le plan Marseille en grand. Alors fera-t-il un point d'étape en déambulant dans les quartiers nord ou bien ce déplacement sera-t-il uniquement consacré aux JO ? Incertitude pour l'instant sur le déroulé précis du programme. Ce qui est sûr, c'est que le président compte aujourd'hui sur sa ville de cœur pour créer un déclic chez les Français dont l'engouement se fait attendre pour les JO. Un proche en est sûr, dès l'arrivée de la flamme, ça va changer. Car Emmanuel Macron, il espère bien capitaliser sur cet événement. C'est selon un député macroniste une belle occasion de laisser une trace dans son mandat.
En attendant, Emmanuel Macron accorde une interview au magazine Elle ce matin pour parler des familles monoparentales. Notamment, il évoque un devoir de visite plutôt qu'un droit, comme c'est le cas actuellement pour les pères à l'égard de leurs enfants en cas de séparation. Pour préciser son vaste plan aussi contre l'infertilité, vous vous souvenez, il annonce un bilan complet pour tout le monde autour de 20 ans. Et pour revenir, comme je vous le disais, sur la polémique Gérard Depardieu, l'acteur mis en examen pour viol, qui sera jugé en octobre pour agression sexuelle. Emmanuel Macron avait déclenché la polémique en décembre dernier en dénonçant une chasse à l'homme. Eh bien, Romain Houck pour RMC, Emmanuel Macron se défend ce matin.
Oui, je n'ai jamais défendu un agresseur face à des victimes, affirme Emmanuel Macron, qui se dit intraitable sur la question des viols et qui dit avoir un profond respect et une grande confiance dans la parole des femmes. Aucune complaisance, dit-il, vis-à-vis de l'acteur qui sera jugé à l'automne à Paris pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021, mais une volonté de respecter des principes comme la présomption d'innocence, principes qui vont permettre à la justice de statuer sur le cas de Gérard Depardieu en octobre prochain. Et c'est une bonne chose, poursuit-il, pas de mea culpa, donc, mais plutôt une explication de texte de la part du président de la République qui parlait, je cite, d'un immense acteur qui rend fier la France. Il salue également le courage de plusieurs actrices comme Juliette Godrèche qui ont dénoncé les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Mais il poursuit, c'est la justice seule qui établit les culpabilités.
La situation au Proche-Orient, ce matin, on apprend que les États-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes à Israël. Israël qui a multiplié ses frappes toute la nuit dans la bande de Gaza. Les Américains sont inquiets pour la situation à Rafah avant une réunion de la dernière chance pour une trêve ce mercredi en Égypte. Les semaines se suivent et se ressemblent donc pour le Paris Saint-Germain, lendemain de défaite pour le PSG qui a été battu 1-0 par Dortmund hier soir. À l'aller comme au retour, donc la Ligue des Champions s'arrête en demi-finale pour les Parisiens de Kylian Mbappé qui a mis ça hier soir sur le compte de la maladresse plutôt que de la malchance.
J'aime pas trop parler de malchance. Tu sais, quand tu es bon, ça tape pas le poteau, ça va dedans. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas été assez bon dans ce secteur-là. T'as beaucoup d'opportunités comme ça, tu marques pas. C'est trop difficile d'espérer aller au tour d'après.
Et c'est désormais sans Kylian Mbappé que le rêve européen continue pour le Paris Saint-Germain et ses dirigeants qataris. Jean-Louis Tour en direct ce matin sur RMC. Voilà l'enjeu pour le PSG.
Oui, ce sera un projet presque inédit au PSG. Pas de star mondiale pour l'incarner médiatiquement, pour mener l'équipe sur le terrain après l'ère Ibrahimovic, l'ère Neymar, l'ère Mbappé. C'est donc terminé hier soir, mais pas de panique. Dans les discours en interne, Luis Enrique a plusieurs fois dit qu'il préparait l'an prochain en mettant parfois le français sur le banc. Nasser Al-Khelaifi, hier soir, a lui affirmé que le futur leur appartenait car il avait une des plus jeunes équipes d'Europe. Pour l'avenir, le recrutement devrait toujours être assuré par Luis Campos en lien avec Luis Enrique, le coach à qui il reste un an de contrat. Reste à savoir quelle sera leur marge de manœuvre sur le mercato. Au moins une grosse recrue par ligne est attendue. RMC Sport vous parlait en février du Lillois Lenny Yoro, révélation de 18 ans, d'un milieu de terrain de classe mondiale et donc d'un joueur offensif pour remplacer Mbappé. Voilà les cibles pour le futur mercato.
Et alors les supporters du PSG pourront se consoler avec, par exemple, le retour du soleil qui accompagne le début du pont de l'ascension, retour du soleil. Oui, c'est très léger, je sais bien. Retour du soleil qui surprend tout le monde après les semaines de grisaille, par exemple à Cancale, en Bretagne. Martin Cadoré.
Pause pâtée en face de la plage, chaussures et sacs de rando au repos. Ces cinq copains de fac sont partis à la dernière minute.
On avait quelques jours de vacances en commun. On a vu qu'il faisait beau. On fait une partie du GR34 et on va jusqu'au Mont-Saint-Michel. On a marché un peu de nuit sous la pluie. C'est pas le même plaisir qu'aujourd'hui. Oui. Si on peut se baigner,
ouais.
Franchement.
Ouais, on a pris maillot de bain, sauf lui.
En cas d'oubli de maillot ou si l'eau est trop froide, Nicolas et Sonia proposent une autre manière de se rafraîchir pendant le pont.
On a prévu d'aller faire un petit tour sur une petite paillote là qui s'est ouverte. Comme il va faire beau, et ben on va aller la tester.
C'est l'ouverture des guinguettes, ça.
Sur un petit muret un peu plus loin, Émile et Laetitia.
Nous sommes en train de savourer les huîtres.
C'était pas du tout prévu. Puis en vue de ce temps, on s'est dit vaut mieux manger ça là comme ça que d'aller au restaurant.
Après, faut pas grand chose pour être heureux finalement. Nous induites, un peu de vin et la vie est magnifique.
Et sur les terrasses, les vrais, il faudra pouvoir satisfaire tout le monde. Arnaud Pierre Paoli, gérant de la mer Champlain.
On a pris 3 ou 4 renforts. Il faut quand même anticiper par rapport à la quantité qu'on aura à servir pour tout ce qui est huîtres, coquillages et crustacés. Nous, on prévoit le maximum. Nous, on attend aux alentours de 400 clients tous les jours.
Côté hôtel, il reçoit de très nombreux appels de dernière minute, mais trop tard, c'est complet.
À 8h10, on peut faire une pause pâtée, nous aussi, ce matin sur RMC.
Mais non, pas de pause pâtée sur RMC. Non, mais non, on n'a pas le temps. On enchaîne. À 8h10, c'était le journal de Quentin Villet. On se retrouve tout à l'heure à 9h. Mais tout de suite, on part au 32-16, retrouver Yves qui nous appelle de Lille-et-Vilaine. C'est ça, bonjour Yves.
Je vous appelle Hélène, à l'époque j'habitais en Normandie, près de Caen, j'ai vécu un moment exceptionnel puisque j'ai rallumé la flamme olympique.
Attendez, ils vont voir reprendre dans l'ordre, oui, vous avez rallumé la flamme olympique, vous nous dites à l'époque, c'était les JO de 92, c'est ça Albertville, les JO d'hiver.
C'était les JO, à l'époque j'étais cadre au service commercial de la Poste, c'était la Poste qui organisait le parcours de la flamme, donc les relayeurs c'était les enfants de postiers, et les escorteurs des postiers en activité comme moi-même.
Donc vous avez escorté la flamme.
Oui, le tirage au sort avait désigné les candidats, on avait une petite épreuve sportive à passer bien entendu, et puis on était nombreux, donc il y a un tirage au sort, je suis désigné pour escorter la flamme olympique de Blainville-sur-Orne où j'habitais à Bénouville.
Et on entend le souvenir, toujours, après 30 ans plus tard.
Oui.
Yves, et forcément, Yves, vous allez suivre aujourd'hui là, à Marseille, l'arrivée de la flamme.
Bien sûr, bien sûr. Et arriver sur le pont de Pégasus, qui en plus, si vous voulez, est un lieu historique, puisque c'est le premier pont libéré en 1944 par les troupes anglaises, un fort coup de vent éteint la flamme.
Ah oui.
J'achète mon travail, je fais le job, hein, je saisis immédiatement le flambeau et que me donne le relayeur, et je me précipite vers la camionnette qui détient, comme on a vu sur le bateau, une flamme de secours.
Oui.
Je la rallume, elle est rallumée.
Incroyable.
Je cours, oui, parce qu'il y a tout un symbole historique pour moi.
Hein. Ah non, mais merci Yves, vous avez rallumé à l'époque la flamme. Bah, ils auront peut-être besoin de vous, hein, si le Mistral souffle un peu trop cet après-midi. Il faudrait un Yves tout à l'heure à Marseille. Mais merci d'être venu nous raconter voilà, ce souvenir historique, Yves. Et voilà, d'où l'importance du symbole de cette flamme olympique qui arrive tout à l'heure à Marseille. Elle arrive en fin de journée, mais la journée est historique dès ce matin sur RMC. Tiens, je vous signale que dès 9h, on sera en direct de Marseille avec les GG sur le toit du Mucem. On retrouvera aussi le super Moscato Show tout à l'heure de 15h à 18h sur le Vieux-Port pour l'arrivée de la flamme et même une radio digitale sur l'appli RMC pour ne rien rater à partir de 18h ce soir. Merci Yves d'être passé par le 32-16, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est la gueule de bois ce matin pour les supporters du PSG. Nouvelle défaite, match retour contre Dortmund 1-0 au Parc hier soir en demi-finale retour. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
Alors Daniel, qui est responsable de cette nouvelle désillusion? Tu nous dis tout dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et l'arrivée de la flamme à Marseille qui vous fait réagir sur l'application RMC. Alors pas tous avec enthousiasme. Il y a Julien qui trouve honteux de mobiliser autant de policiers pour ça. Il dit vivement, surtout les épreuves sportives. Pour Philippe, Fab ou encore Pascal, c'est surtout trop d'argent dépensé toutes ces cérémonies. Mais il y a quand même Romain près d'Angers qui lui attend avec impatience l'arrivée de la flamme. Ce sera le 28 mai chez lui. Ce sera historique, ça va être super, écrit Romain. Comme d'hab, ça grogne en France, mais tout se passera bien dans la meilleure des ambiances. Voilà, ce qui vous fait aussi beaucoup réagir ce matin, c'est l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Déception, agacement. Philippe qui nous dit « Paris est juste capable de gagner le championnat ». Stéphane, quelle désillusion, mais pas surprenant vu le niveau technique des joueurs qui ne courent pas. Faute lourde, dit Tom. Une équipe de starlet payée de manière délirante et un entraîneur qui a échoué. Il faut tout reconstruire. Voilà, vous continuez à réagir sur l'application RMC. Ça se passe sur l'onglet Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
8h15, vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Avec Daniel Riolo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Au Parc hier soir dans l'after, en studio ce matin dans Apolline Matin. Et avec vous au 32-16 évidemment, hein, supporter du PSG. On vous attend, mais d'abord Daniel, on va revenir donc sur ce match d'hier soir. Nouvelle défaite 1-0 du PSG face à Dortmund. Paris qui ne verra pas la finale de cette Ligue des Champions. Pourtant, 30 tirs, 2 poteaux, 2 barres. Les Parisiens peuvent avoir quelques regrets ce matin.
Ah, les regrets, j'ai cru, j'ai eu peur que vous partiez sur l'argument de la chance, comme l'a fait l'entraîneur du Paris Saint-Germain hier soir. Vous me rassurez, parce que les regrets, bon, oui, évidemment, évidemment, parce que on a tous eu le sentiment qu'il y avait une très grosse opportunité qui s'offrait aux Parisiens, et ce, dès le tirage au sort du tableau, puisque maintenant, quand on tire au sort en Ligue des Champions, on vous propose pratiquement un chemin vers la finale. Et jouer ce Barcelone-là cette année, enfin d'abord la Real Sociedad, puis Barcelone qui ne semblait pas être un monstre cette année, puis dans la foulée le vainqueur de Dortmund Atlético Madrid. Oui, on avait le sentiment, on l'a beaucoup dit, alors ce sont toujours des arguments qui sont un peu curieux parce que ça frise un peu l'irrationnel, les planètes s'alignent, j'ai beaucoup entendu ça, et c'est peut-être la bonne année pour le Paris Saint-Germain. Après le match aller où Paris avait perdu 1-0 mais en se créant beaucoup d'occasions, effectivement, il était facile de penser que la situation pouvait être retournée hier soir.
C'est ce que tout le monde pensait. Il y avait beaucoup de confiance parmi les supporters, mais ça, c'est quelque part leur rôle d'y croire.
Ça, oui.
Même le coach, Luis Enrique, disait en français, on va gagner.
Moi, j'ai trouvé que c'était trop. On m'a expliqué, ou on a tenté de m'expliquer qu'on a le droit parfois de changer de communication et l'auto-persuasion, ça peut aider, puisque le Paris Saint-Germain avait souffert ces dernières années, peut-être justement mentalement, en n'étant pas à la hauteur des rendez-vous et souvent en gérant mal ses émotions, peut-être qu'en répétant, en s'auto-persuadant, mais si on va se qualifier, mais si on va se qualifier. Moi, j'ai pensé parfois, quand j'ai entendu ces derniers temps, aussi bien l'entraîneur que certains joueurs, être convaincus qu'on allait passer, qu'on allait gagner, je me disais, j'espère qu'en Allemagne, ce discours ne va pas arriver, qu'il va s'arrêter à la frontière, oui. Parce que si je suis dans la direction du Borussia Dortmund, entraîneur, dirigeant ou quoi, je n'ai plus qu'à prendre les phrases, je découpe, je colle dans le vestiaire, et j'ai dit, mais regardez ce qu'ils pensent de vous, ils pensent tous que c'est fait. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont déjà qualifiés. Il n'y a rien de mieux pour motiver une équipe dans le foot. Il n'y a rien de mieux dans le sport en général, d'ailleurs.
Il y a sûrement quelques erreurs par Luis Enrique dans la communication, peut-être dans le coaching, la tactique. Mais ensuite, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a un joueur en particulier qu'on attendait hier soir, c'est Kylian Mbappé, qui a été transparent au match aller. C'était presque pire hier soir.
Alors, je pense que je n'aurai pas le temps ce matin, vu le temps qu'il nous est imparti tous les deux, de vous expliquer toute la saison de Mbappé. Mais je pense qu'au final, la gestion depuis cet été et le vrai faux transfert avorté jusqu'à aujourd'hui, avec étape très importante, ce qu'il s'est passé le soir de ce match de championnat à Monaco, où Luis Enrique, le soi-disant génial entraîneur du PSG, a pensé que c'était une bonne idée de lui fouetter son orgueil et de le traiter comme le dernier des derniers joueurs du vestiaire.
Je vais préciser, il l'a sorti à la mi-temps et on a vu Mbappé saluer les supporters.
Pour montrer son autorité, il pensait qu'il n'aurait pas de réaction vis-à-vis de ça et il a eu une réaction de Mbappé qui était peut-être encore plus stupide que l'attitude de Luis Enrique. Et quand la stupidité rencontre la stupidité, généralement ça donne pas quelque chose de bien. Je pense que ce soir-là, tout s'est fracassé et dans la tête de Mbappé, dans la tête de l'entraîneur et dans la tête du club. Ça a été l'aboutissement d'une gestion de dernière année de contrat de Mbappé complètement ratée. La non-préparation physique de Mbappé cet été, puisque justement il y a eu toute cette rocambolesque histoire du vrai faux départ au Real Madrid, il l'a payé physiquement. On a l'impression d'un joueur qui n'avançait plus, qui n'était plus capable d'éliminer, qui était même un peu empâté. Je trouve pas qu'il était hyper fit et hyper en forme.
Il n'a pas fait de différence.
Et donc il n'a pas été bon, c'est vrai. Mais je crois que le principal responsable de toute cette situation, c'est le soi-disant génial entraîneur que le PSG a trouvé l'été dernier et qui s'avérera au fil des années, je pense, en fonction du temps qu'il va rester au PSG, peut-être la plus grosse supercherie que le PSG aura dégoté ces dernières années. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira et je suis convaincu qu'on ira vers ça.
On va aller au 32-16 accueillir Jamal qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jamal.
Oui, bonjour Charles.
Ah mais ça me dit quelque chose Jamal, on s'est pas croisé hier soir ?
Justement, on s'est appelé le matin et du coup je vous ai dit qu'on pourrait, je serais au parc et on s'est croisé à la porte N.
Ah mais alors je vais être très précis, Jamal, vous étiez hier matin avec Apolline au 32-16, vous
disiez
la sécurité au parc, hier soir... Hasard des accès au parc, vous l'avez palpé, je peux le dire. Jamal m'a palpé hier soir avant d'être avec vous ce matin en direct au 32-16. Bon, Jamal, quand on est agent de sécu au parc, vous avez quand même pu jeter un coup d'œil au match ou pas ?
Oui, j'étais sur le terrain en fait, au terrain, mais deux joueurs, mais on a pu voir un petit peu, voilà. Mais on était vraiment, moi j'étais à côté du collectif Ultra Paris. Ouais. Vraiment, c'était chaud. On a cru vraiment à une qualification, mais les joueurs, après, il y a des joueurs qui ont donné. Mbappé, il n'existait plus. Mais après la composition, moi, je suis avec Daniel. La composition, moi, je vois pas comment on peut laisser Barcola ou sur le banc, faire entrer Asensio. Après, c'est le coach qui décide.
Le coaching. Alors, j'aimerais dire un mot aussi, Jamal, parce qu'on a beaucoup pointé le fait que le PSG n'a pas marqué, mais le PSG a encore encaissé un but hier soir.
Mais
gardien de but, Daniel Donnarumma, n'est pas vraiment une assurance tout risque pour le PSG.
On le sait depuis longtemps. C'est un gardien qui, sur sa ligne, est au-dessus de la moyenne et qui, dès qu'un ballon est tiré sur un corner, enfin bref, un ballon aérien, vous avez un gardien qui devient mais affreusement banal, voire mauvais. Oui. C'est quand même incroyable que un joueur, il fait 2 mètres. Oui. Tous les ballons hauts, vous avez l'impression que d'un coup, il perd 20 centimètres. Il a peur d'y aller et évidemment qu'à chaque fois qu'il y a un corner, c'est un frisson qui parcourt le dos des supporters du Paris Saint-Germain en disant « ça va être dangereux ». Et hier, il y a eu un corner, erreur de marquage, mais lui surtout, vous savez, quand vous apprenez le foot, quand vous êtes gamin, la petite surface qui est devant le gardien, les 5,50, c'est le domaine réservé, ça doit être privatisé par le gardien, il doit faire la loi dans cette zone-là. Déjà que
Normalement, il doit faire la loi dans la surface. Mais là, même dans la petite surface, avec ses deux mètres, il n'est même pas capable d'aller prendre un ballon en l'air. C'est totalement rédhibitoire. Parce que ce but-là, il a ruiné les espoirs d'une égalisation dans les dernières minutes, d'une fin de match un peu héroïque. Voilà. Alors, quand derrière, on me dit, il n'y a pas eu de chance, il y a eu les poteaux. Mais peut-être aussi que... Alors, moi, je déteste quand on raisonne en termes de chance dans ces cas-là. Et le génial, soi-disant génial entraîneur du PSG, il a dit, entre frapper sur les poteaux et frapper dedans, la différence, c'est l'Esprit Saint. Bon, ben, si on s'en remet à Dieu, alors dans ces cas-là, déjà, il aurait dû le remercier pour ce pénalty tombé du ciel dans le dernier match de poule contre Newcastle. Il aurait dû le remercier, Dieu, quand Araujo a fait cette erreur stupide dans le Barcelone-PSG qui a fait que le Barça a terminé le match à 10 et que c'était discutable quant à savoir s'il était à l'intérieur ou non de la surface de réparation, mais on a vu des arbitres ne pas siffler pour ce genre de faute-là. Bref, de la réussite, le PSG en a eu depuis le début de la saison. Alors, si on doit s'en remettre à l'irrationnel, ce qui, à mon sens, est une bêtise, alors dans ces cas-là, on peut dire que le PSG avait usé de toute sa chance jusque-là.
En un mot, Daniel, si on se projette maintenant sur la fin de saison, là, le PSG est déjà champion de Ligue 1.
C'est fini, c'est fini.
Il y a quand même une finale de Coupe de France.
Une Coupe de France de plus ou de moins, qu'est-ce que ça va changer dans la vie du Paris Saint-Germain? C'est terminé. D'habitude, vous me direz, les saisons du PSG, elles se terminent au mois de mars. Là, on a poussé jusqu'au mois de mai.
On
parce
a vibré,
final, jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Bon, vous êtes dans les quatre meilleures équipes d'Europe. Ce qui est regrettable, c'est que vous dites, bon, bah, Dortmund va aller jouer la finale. Dortmund, c'est une très, très bonne équipe, un très grand club, mais c'est pas un club qu'on est habitué à voir en finale de la Ligue des Champions. Donc, vous vous dites, si eux, ils sont allés, comme l'Inter y est allé l'année dernière, bon, le PSG aurait pu y aller, mais il aurait fallu faire des choix un petit peu différents. Choix que n'a pas fait le soi-disant génial entraîneur du PSG.
Ouais, alors, bon, échec pour le PSG, mais on va ce matin célébrer l'after. Daniel, parce que Daniel, l'after est le premier podcast de France.
Oui,
on a eu
vrai.
Les chiffres hier et bravo oui. Daniel, bravo Gilbert, toute l'équipe autour
toute
de
bande,
vous.
Oui,
tous les podcasts d'RMC d'ailleurs qui cartonnent, première radio privée, 31 millions de podcasts téléchargés au mois d'avril. On va aussi saluer, on va être un peu chauvin, la performance exceptionnelle d'Apolline Matin, 24% de hausse en un an
magnifique.
Pour les podcasts, voilà, du matin au soir sur RMC. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, mais là, tiens, peut-être que vous prenez la route pour un pont ou même un viaduc du mois de mai. Bah, n'hésitez pas, il y a les podcasts évidemment sur l'appli RMC. Vous retrouvez tous les meilleurs moments d'RMC en podcast sur l'appli. On remercie aussi Jamal d'être passé par le 32-16 ce matin et pour son accueil hier soir au Parc des Princes. Il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours Demanche.
Mais oui, c'est tous les jours, même les jours fériés. On va se faire plaisir avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Tiens, souvenez-vous, ce jour-là, Arnaud nous parlait des deux nouveaux chiens accueillis par Emmanuel Macron à l'Élysée.
Oui, voilà, deux nouveaux toutous baptisés Riester et Guérini. qui ont rejoint Nemo. Non, je plaisante, Riester et Guérini, c'est des ministres. Les chiens, en vrai, ils s'appellent Jules et Jeanne. Ça devait être l'année des J. Moi, à la place de Macron, j'aurais choisi Jordan et Jean-Luc. Rien que pour le plaisir. Jordan, Jean-Luc, couché, sage, au pied. Jordan, non, on ne sent pas le cul de Poutine. Jean-Luc, tu vas pas faire n'importe quoi avec la bande de gazon. Tu arrêtes. Alors, les deux nouveaux chiens ont été dévoilés sur Instagram par la photographe officielle de l'Élysée, ce qui va encore faire des drames sur CNews. Hein. Mathieu Boccoté, il va s'énerver. Tabernac de Chris-Emmanuel Macron qui héberge un couple d'Afghans à l'Élysée, des lévriers talibans qui ont accès à tous les secrets d'État de notre pays, ciboire. Alors qu'il aurait déjà pu, il aurait pu choisir un berger allemand catholique, déjà qui nous impose Aya Nakamura et sa levrette tabernacle de Christ de ciboire. On espère que les chiens sont prévenus. Si Emmanuel Macron fait trop de coupes dans les budgets de la culture, Rachida Dati va débarquer dans son bureau pour en faire des kebabs et de chiens. Rachida, je pense qu'on va devoir tailler un peu dans les budgets. Qu'est-ce que t'en dis?
Mais bah, chien, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Elle devient de plus en plus dure à gérer, Rachida.
De plus en plus de Français, Arnaud, s'abonnent à ce qu'on surnomme la pornographie immobilière.
Oui, ça donne à ça. Alors, ce sont des Français qui passent des nuits à regarder des petites annonces immobilières en fantasmant sur des baraques qui pourront jamais se payer. Alors, bon, ça se fait dans tous les coins de France. À Paris, c'est une sexualité plutôt passive. Hein, avec l'immobilier, c'est plutôt toi qui te fais ken. Mais en tout cas, les sites d'immobilier s'adaptent. Tu veux explorer les maisons les plus chaudes de ta région? Découvrir leur extérieur comme leur intérieur? Avec ou sans poils? Pour une chaleur diffuse et constante? Alors, rejoins les haussmanniens à poutres apparentes les plus sexy de ton arrondissement. Viens découvrir les chaudières de ta ville. Viens admirer les plus beaux volumes de ton secteur et noue des relations pour une vie de plaisir. Et là, tu lances une vidéo coquine. Et ma moquette, tu l'aimes ma moquette ?
Oui.
Et mon balcon, tu l'aimes mon balcon ? Tu trouves qu'il est assez gros ?
Oui.
Et mon revêtement antifongique pour empêcher les moisissures et les champignons ? Tu l'aimes mon revêtement antifongique pour empêcher les moisissures et les champignons ? Oui, bah on va plus regarder les petites annonces immobilières de la même façon. Hein. C'est très nouveau comme tendance.
Le meilleur d'Arnaud Demanche sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la météo, le journal et puis on ira à Marseille. La flamme olympique arrive dans quelques heures sous très haute sécurité. La porte-parole du ministère de l'Intérieur est mon invité à 8h40. 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 150 000 personnes attendues à Marseille aujourd'hui pour l'événement, l'arrivée de la flamme olympique en France. Journée de festivités sous très haute sécurité. Être parent est un devoir. Emmanuel Macron veut imposer le devoir de visite en lieu et place du droit de visite pour les pères de famille monoparentales. Et puis, retour de flamme pour le Paris Saint-Germain, battu 1-0 par Dortmund hier soir et éliminé de la Ligue des Champions.
Le Bellem vient d'arriver au large de Marseille.
Après 12 jours de mer et son départ d'Athènes, le mythique trois-mâts est donc ce matin dans le parc national des Calanques. Il avance à une vitesse de 8 km/h et entrera ce soir dans le vieux port à son bord. La flamme olympique, 150 000 personnes sont attendues sur place. Mais avant d'embraser Marseille, la flamme restera encore un peu sur le Bellem pour une parade aux côtés de 1024 embarcations locales à bord de l'un de ces bateaux. Claude, très impatiente à l'idée de vivre ce moment d'histoire, Hélène Terzian l'a rencontrée pour RMC.
On embarque sur la barquette. Alors vous voyez, ça bouge, c'est normal parce qu'elle est légère.
À côté de la petite barque de pêche traditionnelle de Claude, le Bellem n'a qu'à bien se tenir. 5,60 m de long, tout en bois, ce sera l'une des plus petites embarcations à escorter le majestueux voilier.
On l'a foufoutant. On a vérifié tout. On a vidé l'eau des cales, nettoyé au maximum. On a vérifié que le moteur marchait.
Comme les 1000 autres barques, bateaux, petits voiliers sélectionnés, elle retrouvera d'abord le Bellem au large de Marseille pour une entrée triomphante dans le vieux port.
Aucune répétition. On espère que tous les Marseillais vont savoir obéir aux règles.
Dernière touche à fixer au mât avant le grand départ.
Le petit drapeau. Alors il y a écrit « Parade de la flamme olympique ». Si vous n'avez pas ce drapeau, vous ne pouvez pas sortir.
Ça c'est le règlement, mais chacun sa touche personnelle.
J'y mettrai aussi le drapeau de la ville de Marseille. Les Marseillais sont tellement contents de recevoir la flamme. On est très fiers. La ville de Marseille a été créée par les Phocéens des Grecs. Cette flamme arrive de Grèce. Donc pour nous, c'est un juste retour, quoi.
Une fierté telle que 150 000 personnes attendront la flamme au Vieux-Port.
La joie des Marseillais pour cette journée de fête sous très haute sécurité. Nicolas Pelletier, d'importants moyens sont mobilisés pour cette journée.
Oui, du jamais vu pour Marseille. Sur place, 5942 policiers et gendarmes seront chargés de la sécurité. Pour cette journée, l'organisation attend 150 000 personnes. Mais avec le beau temps prévu, ce chiffre pourrait gonfler. La ville est sous cloche depuis lundi. Les démineurs ont inspecté tous les bateaux du Vieux-Port. La moitié des unités de force mobile française sont aujourd'hui à Marseille. En alerte aux quatre coins du centre-ville, 16 tireurs d'élite du RAID devront sécuriser cette cérémonie avec la présence de 900 journalistes du monde entier. Et dans le ciel marseillais, un Rafale et un AWACS, un avion radar, seront chargés de la police de l'air. Des moyens hors normes pour cette arrivée de la flamme qui sonne aussi comme une véritable répétition avant la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris le 26 juillet.
Et vous ne manquerez rien de cette journée spéciale sur RMC Les Grandes Gueules et le Super Moscato Show en direct de Marseille aux côtés de nombreux invités, Soprano ou encore Didier Drogba. Faut-il imposer un devoir de visite aux pères de famille monoparentales ? Emmanuel Macron ouvre le débat. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs. Ce sont les mots du président de la République dans un entretien accordé au magazine Elle. Au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, Emmanuel Macron veut exiger des visites régulières jusqu'à l'âge adulte de l'enfant en cas de séparation des parents. Une demande de longue date prônée par les associations, Marion Gauthier.
Le droit de visite, c'est souvent un enfant sac préparé pour le week-end, attendant un père qui ne viendra jamais, raconte Sarah Margueraz. Elle est cofondatrice de l'association collective des mères isolées.
À aucun moment, la justice ne se soucie des conséquences sur la sécurité affective de l'enfant. J'ai un enfant dont je sais qu'à n'importe quel moment, son père peut me dire qu'il ne viendra pas la chercher le week-end, qu'il souhaite modifier les dates des vacances sans que je n'ai aucun moyen de me retourner contre lui.
Transformer ce droit en devoir de visite régulière, créer un délit et des sanctions présence s'il n'est pas respecté.
Que cet homme qui n'assume pas son devoir de présence perde aussi un peu en pouvoir de décision et qu'une mère ne soit ou pas obligée de lui demander son autorisation chaque fois qu'elle lève le petit doigt, qu'elle inscrit l'enfant à un voyage scolaire ou qu'elle l'emmène chez le médecin pour lui faire faire un scanner.
Il faut aller dans le sens de l'égalité car les mères gèrent plus de 80% des familles monoparentales, rappelle Émilie Bilan-Curigny, sociologue et professeure à Sciences Po.
Il y a très clairement dans notre droit de la famille une asymétrie très forte entre devoirs pour les mères d'un côté, droit pour les pères de l'autre.
Mais elle souligne un impératif, suspendre le devoir de visite à la moindre suspicion de violence.
Autre sujet évoqué par le chef de l'État dans cet entretien au magazine Elle, l'affaire Depardieu. Emmanuel Macron assure n'avoir jamais défendu un agresseur face à ses victimes. Il déclare ne pas avoir de complaisance vis-à-vis de l'acteur qui sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. De nouvelles tensions hier aux abords de la Sorbonne et Sciences Po Paris où les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à des actions de blocage et de rassemblement d'étudiants pro-palestiniens. Du monde encore sur la route. Aujourd'hui, bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Week-end de pont marqué par la réouverture vendredi de la 13 en direction de Paris. Autoroute fermée depuis la mi-avril en raison de fissures sur la chaussée. Il est 8h35, vous êtes sur RMC. La fin du rêve européen pour le Paris Saint-Germain, éliminé de la Ligue des Champions aux portes de la finale, battu 1-0 par Dortmund hier soir au Parc des Princes. Pour les supporters, c'est la douche froide, Pierre Thévenet.
Au coup de sifflet final, les supporters parisiens sont agacés, frustrés par ce résultat.
Sur le terrain, carrément, ils ont même pas respecté. On se casse avant, on fait les déplacements, on est là pour eux. Même s'ils perdent, vas-y, on les encourage. Mais là, il n'y a rien, je comprends rien.
Je m'imaginais même pas une défaite, en fait, pour être honnête. Et là, je suis déboussolé.
Il faut dire que les fans du club ont tout donné. Avant la rencontre, ils ont chanté pendant de longues heures. Et pendant le match, jusqu'au bout, ils ont poussé derrière leur équipe. Pour Dimitri, les joueurs n'étaient pas à la hauteur.
Je les ai même pas sortis à 20%. On aurait dû faire plus, on aurait dû être dans le combat, on aurait dû être dans l'agressivité, dans la percussion. On a rien de tout ça. On a fait que jouer à la baballe, comme si c'était pas un match en jeu, que c'est pas normal.
Même son de cloche s'est saoulé, furieux contre son équipe et contre un joueur en particulier.
Très compliqué pour Kylian Mbappé, parce que franchement, là, il nous a un peu déçus, il a pas trop joué. C'est pas normal ce qu'ils nous ont fait. On est en colère.
Pour sa dernière au Parc des Princes en Ligue des Champions avec le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'aura donc pas réussi à accrocher une nouvelle finale.
Et en finale, Dortmund affrontera le vainqueur du match Real Madrid-Bayern Munich à vivre ce soir à partir de 21h sur RMC. Et puis tiens, cette information, après Victor Wembanyama désigné rookie de l'année, hier un autre Français a été mis à l'honneur en NBA, c'est Rudy Gobert, sacré pour la quatrième fois meilleur défenseur de l'année.
Bah, nos Frenchies qui brillent en NBA, on compte sur eux pour briller pendant les JO, en attendant... Oh oui. Un mot des courses aujourd'hui, c'est à Lyon-Paris.
Exactement, c'est à 15h15 sur RMC Découverte. Le 9 Valerio est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 2 Kanechia. Le 9 et le 2.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h37.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Ça y est, le Belém est au large de Marseille et la flamme olympique débarque ce soir sur le Vieux Port. Événement historique et immense défi sécuritaire sur terre, en mer, dans les airs. Notre invité tout de suite en direct de Marseille, c'est Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
8h41, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va tout de suite partir à Marseille.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Oh, je vous le rappelle, nous allons vivre une journée historique et olympique avec l'arrivée de la flamme. Journée à vivre sur RMC, les GG à partir de 9h sur le toit du Mucem à Marseille avec plusieurs invités évidemment, David Douillet, l'humoriste Redouane Bougueraba, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache. Et puis notez bien qu'à 15h, le super Moscato Show sera en direct du Vieux-Port autour de Vincent, toute son équipe évidemment, mais aussi les invités exceptionnels sur RMC, Didier Drogba ou encore le chanteur soprano. Bref, journée historique, vous l'avez compris, sur RMC. On est d'ailleurs tout de suite en direct de Marseille avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour.
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 Bonjour. La flamme olympique arrive donc aujourd'hui sur le Vieux-Port. Ce sera en début de soirée sous les yeux du monde entier. Et c'est le coup d'envoi d'un immense défi sécuritaire sur tout le territoire, puisqu'il va falloir sécuriser le parcours de la flamme, puis la cérémonie d'ouverture, toutes les épreuves. On va y revenir. Mais d'abord, Camille Chaise, là, à 8h42, quelle est la situation à Marseille? Est-ce que tout le dispositif est en place pour que la fête soit parfaitement réussie?
Oui, ça y est, le coup d'envoi pour nous, les forces de sécurité et de secours, est lancé. Un peu avant 7 heures, il y a eu les premiers briefings de tous les policiers et les gendarmes. Ils sont plus de 6000 aujourd'hui sur les lieux. Et le barriérage est en place, les nombreux points de filtrage sur le Vieux-Port aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir le niveau de sécurité maximal, mais que la fête soit présente pour tous ceux qui veulent venir assister aux festivités. Elles ont commencé hier soir avec un magnifique spectacle de drones, feux d'artifice à un concert. Donc ça y est, on y est, on est tous mobilisés pour que la fête soit là.
Mais ça fait d'ailleurs plusieurs jours que les forces de l'ordre sont mobilisées. Des démineurs ont notamment inspecté tous les bateaux du Vieux-Port, c'est ça ?
Oui, il y a une grande parade qui se prépare dans la rade de Marseille cette fin de matinée. Et donc, il fallait déminer tous les bateaux, ceux qui sont à quai et ceux qui participent à la parade. Donc, ce sont plus de 80 équipes de démineurs, policiers, gendarmes, pompiers qui étaient là avec les chiens pour passer en revue chacun des bateaux. C'est un process nouveau qu'on a mis en place pour vraiment ne rien laisser au hasard et que la sécurité soit vraiment maximale.
Ne rien laisser au hasard, mais qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Quels sont les risques majeurs identifiés ?
Les risques, on les connaît, hein. Il y en a un certain nombre pour le relais de la flamme, pour l'arrivée de la flamme à Marseille, comme pour l'ensemble des Jeux Olympiques. Il y a le risque cyber qui est toujours présent. On pense tous malheureusement au risque terroriste, parce qu'on sait que le niveau de menace est élevé, même si les Jeux Olympiques n'ont pas été ciblés en tant que tels, mais le risque est là, et malheureusement certains événements les mois passés nous ont rappelé que un passage à l'acte est toujours une possibilité. C'est pour ça que le dispositif aujourd'hui à Marseille est en place avec ces filtrages importants. Il y aura des fouilles de sacs, des palpations de sécurité pour que tous les spectateurs qui viennent sur le Vieux-Port soient vraiment présents. Alors, mais avec ce niveau de sécurité.
Faisons passer le message, Camille Chaise, à tous ceux qui nous écoutent dans le sud de la France et qui seraient tentés aujourd'hui, ce 8 mai, c'est férié, de se rendre à Marseille sur le Vieux-Port, de vivre sur place cet événement historique. Est-ce qu'il y a des consignes particulières ? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part, etc. Ou on peut venir comme on est et on est fouillé, c'est gratuit.
Aujourd'hui, les accès sont totalement libres, il n'y a pas besoin d'accréditation. En revanche, déjà s'y prendre suffisamment tôt, parce qu'il y aura beaucoup de monde, il y a un certain nombre de stations de métro qui peuvent être fermées, donc bien regarder les itinéraires et faire au mieux en fonction des conditions de circulation, peut-être venir à pied ou en transport en commun. La deuxième chose, c'est ne pas prendre d'objets interdits. On pense bien sûr, je ne sais pas, un couteau, une arme ou une bombe lacrymogène, tous ces objets seront écartés à l'entrée lors de la fouille. Voilà, un petit peu comme c'est le cas pour les matchs de football ou autres matchs sportifs. Je sais que Marseille est féru de sport, donc c'est un petit peu les mêmes règles qui vont s'appliquer au moment des filtrages ici sur le Vieux-Port.
Et alors j'aimerais revenir, vous l'évoquiez sur la menace terroriste. Gérald Darmanin vient d'adresser, on l'a appris hier, des directives au préfet pour traquer, je cite, les profils radicaux, parce que les JO pourraient avoir un effet galvanisant sur certains profils. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ça signifie quoi, traquer les profils radicaux ? Ça veut dire qu'on va surveiller encore plus près les profils identifiés ?
Oui, on a un certain nombre, vous le savez, de fichiers de renseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des personnes que l'on suit soit H24, soit sur des moments ciblés, des profils effectivement soit militants, soit des profils dont on estime qu'il y a un risque de passage à l'acte. Donc on demande par cette circulaire à chaque préfet de repasser en revue l'ensemble de ces listes, de réfléchir individuellement à chaque situation pour voir si il faut élever encore le niveau de suivi. C'est important pour nous vraiment de rien laisser au hasard, et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés et que les policiers et les gendarmes cet été d'ailleurs n'auront pas de congé, vous le savez.
Mais ça concerne ces mesures-là, les individus déjà présents sur le sol français qui sont identifiés. Est-ce qu'il y a aussi un risque évidemment de la part d'éléments venus de l'étranger ? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, là on peut considérer que les JO débutent quelque part aujourd'hui, la flamme arrive sur le territoire français, est-ce que les contrôles aux frontières vont être particulièrement renforcés à partir d'aujourd'hui ?
Alors effectivement, on a un renfort des contrôles aux frontières, au niveau des aéroports, des ports notamment. Et puis on a un travail de coopération internationale important en termes judiciaires, en termes de renseignements. On travaille vraiment avec tous les pays partenaires et on exploite chaque renseignement et on échange chaque renseignement. C'est quand même quelque chose qui a pris de l'ampleur ces dernières années, qu'il faut saluer. On n'est vraiment pas tout seul et l'ensemble des pays avec lesquels on coopère nous aide dans cette sécurisation d'un événement, parce qu'on sait qu'on est une vitrine, on est regardé en France comme à l'étranger, et donc on met en œuvre tous nos leviers, notamment cette coopération internationale qui est importante pour nous.
Et d'ailleurs, ça va être particulièrement important aujourd'hui pour les forces de l'ordre, comment dire, de calibrer, de vérifier que tout se passe bien dans le dispositif, parce que c'est une répétition générale en fait, là, que vous allez vivre aujourd'hui, de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain.
Alors les dispositifs seront un petit peu différents pour la cérémonie d'ouverture, mais effectivement on peut dire que c'est le premier jour, donc il est extrêmement important pour nous. Le jour de demain aussi est très important, c'est le jour où la flamme va s'élancer dans ce relais. Et donc vous le savez, sur le relais de la flamme, on a vraiment une équipe de policiers et de gendarmes dédiés qui va suivre durant les deux mois qui viennent cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne à aucun moment. Donc ils se sont vraiment entraînés d'arrache-pied ces dernières semaines, et donc le coup d'envoi est aujourd'hui à Marseille et demain pour ce relais qui va s'élancer dans toute la France ensuite.
Et la cérémonie d'ouverture, c'est donc dans moins de 80 jours. On sait que pour l'instant, c'est toujours, a priori, le plan A qui tient la corde. Mais Emmanuel Macron n'avait pas caché sur RMC qu'il existe bien des plans B et C. Qu'est-ce qui pourrait encore vous contraindre à changer de plan là? Vous nous confirmez ce matin, Camille Chaise, on est toujours sur le plan A pour la cérémonie d'ouverture.
Alors le préfet de police et toutes ses équipes travaillent effectivement pour une grande et belle cérémonie sur la Seine. Après, ce qui est certain, c'est qu'on va réadapter les dispositifs si on a un événement géopolitique majeur ou si on a des évolutions dans l'état de la menace que suivent les services de renseignement. Bien sûr qu'on réadaptera les dispositifs pour assurer la sécurité de tous les spectateurs, de tous les athlètes. Ça, c'est vraiment une certitude.
Donc les plans B et C sont toujours sur la table. Et j'ai la même question pour la flamme, parce qu'on connaît le parcours de la flamme. Il y a 69 jours de relais, on sait où elle sera, quel jour, quasiment heure par heure. Tout le monde le sait, et ça pourrait donner lieu à des perturbations. On peut penser, je ne sais pas, à des activistes, des manifestants, sans parler de la menace terroriste. Est-ce que là aussi, tous les jours, il y a des plans B et C? Est-ce que, je ne sais pas, même demain à Marseille, au dernier moment, on peut modifier le tracé, le parcours de la flamme?
Alors bien sûr, on sait en France, il y a un certain nombre de militantisme, d'envie de manifestation, et c'est bien normal en démocratie. Donc déjà, les manifestations seront permises dès lors qu'elles sont déclarées et qu'elles sont négociées sur le parcours. Donc l'objectif, c'est que toutes ces actions ne viennent pas perturber l'itinéraire et le relais. Après, si on a des incidents sur le parcours, ça peut être des incidents d'ailleurs d'ordre sécuritaire ou d'ordre plus technique. Par exemple, on peut avoir des pannes de véhicules ou ce genre de choses. À chaque incident, on a des procédures, des conduites à tenir, qui font qu'effectivement on peut avoir à faire évoluer le dispositif au cas par cas. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cette bulle de sécurité autour de la flamme, il y a des policiers, des gendarmes, un membre aussi du corps préfectoral qui prendra les décisions au fur et à mesure en fonction des incidents qui pourraient avoir lieu sur ce parcours. Après, on sait que sur les deux mois qui viennent, forcément on aura un certain nombre d'éléments, c'est pas très grave tant que la flamme continue son parcours, et on nous réserve des belles surprises. L'objectif de ce relais, c'est vraiment de faire découvrir notre patrimoine culturel, nos monuments, notre géographie qui est si belle, et donc quoi qu'il arrive, cette flamme continuera à s'élancer partout en France.
Camille, j'aimerais revenir là-dessus, parce que vous nous disiez aussi tout à l'heure en tout début d'interview, tout est en place à Marseille, il y a un dispositif exceptionnel, mais on fait en sorte que le dispositif, comment dire, ne gâche pas la fête. C'est aussi un défi, non, pour les forces de sécurité d'être à la fois extrêmement présentes et extrêmement discrètes.
Oui, ce qu'on veut, c'est que le long du relais de la flamme, les personnes puissent se déplacer, les spectateurs puissent venir, puissent voir la flamme, puissent participer vraiment à
ce... Mais y compris à Marseille aujourd'hui, Camille Chaise, sur les images qui vont faire le tour du monde entier aujourd'hui, on ne va pas voir que des camions de CRS, quoi. C'est l'objectif.
Non, vous allez voir surtout des gens contents d'être là. C'était déjà le cas hier soir à ce magnifique concert et à ce feu d'artifice. On voit des enfants, on voit des familles. Les gens sont heureux. En plus, le temps ici à Marseille est magnifique. Donc, il faut trouver ce juste point d'équilibre entre la sécurité. La fête ne sera réussie que s'il y a sécurité, ça on en est persuadé. Et en même temps, il faut qu'il y ait une fluidité dans les accès, que ce soit assez simple pour les gens de se déplacer et pour voir être dans cette effervescence des Jeux Olympiques.
Je vous remercie, Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Marseille, depuis le studio RMC installé sur le toit du Mucem. Et ben, on va pas aller très loin, on va aller juste à côté de vous, à la même table où nous attend Alain Marchal. Parce que oui, c'est parti dans un instant. Est-ce qu'Alain est là pour les GG dans un instant,
Charles,
sur RMC?
Bonjour,
salut Alain.
Bonjour à tous. Salut Charles. Les grandes gueules seront là avec Didier Giraud, l'agriculteur, Joël Dagosséry, la coach de vie, avec Mehdi Guézard, notre supporter parisien. On vous fera vivre les coulisses de l'arrivée des GG d'ailleurs, puisqu'hier nous étions dans un bar de Marseillais pour vivre l'élimination du Paris Saint-Germain. Donc vous aurez les coulisses de l'état d'esprit d'Olivier Truchot et de Mehdi Guézard, mais surtout beaucoup à événement exceptionnel, cadre exceptionnel pour les GG. Nous sommes sur la terrasse face à la mer pour vivre l'arrivée du Belém, l'arrivée de la flamme olympique, dont nous parlerons notamment avec notre champion David Douillet, avec Redouane Bougueraba, l'humoriste de Marseille qui va porter la flamme, avec la secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Savoir si ce sera vraiment la fête populaire. Est-ce que même dans les quartiers, on va fêter l'arrivée de la flamme? Rendez-vous avec les GG de 9h à midi en direct de Marseille.
Alain, avec ou sans les lunettes de soleil? Parce que là, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, sur RMC Story, Alain porte ses lunettes de soleil. Est-ce que ce sera le cas jusqu'à midi?
Écoutez, on se comporte comme des stars, les GG, vous savez. Donc, on met des lunettes de stars.
Eh bien, les stars des GG, c'est tout de suite sur RMC.